Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 209. Mon nom est Paul Andriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Et cette fois-ci, nous avons la grande chance d'être accompagnés par Delphine Larose. Delphine, bonjour.
Bonsoir.
Donc oui, c'est Delphine, évidemment, qui est critique avec nous à Point de vue depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a publié notre top 25 de la décennie, enfin. Ouais. Donc ça, vous irez voir ça sur notre site pointdevue.net. Gros top, puis toi Delphine, tu disais c'est un peu, ça paraît que tu travailles avec plusieurs hommes, là. C'est un top de boy, là, pour reprendre tes mots un peu. Là.
Ben oui, mais tu sais, c'est ça, les deux premiers films du top commun, là, qui est Mad Max, puis...
Under the Skin.
C'est ça. Under the Skin, ouais. Ben tu sais, moi, ils font même pas partie de mon top 25, puis c'est pas des films qui m'ont marqué. Fait que juste ça, j'étais comme, bon, ok, c'est correct.
Mais Under the Skin, tu te considérais comme un film de boy, mais ça, je voyais pas vraiment les thématiques. C'est même féminin, comme, non? C'est le gars qui parle, là, puis qui sait pas de quoi il parle, là, mais je sais pas, là.
Ouais, il y a des femmes dans Mad Max en robe, là.
Ouais, c'est ça, c'est toutes des chicks.
Non, mais Mad Max, je comprends, mais on dirait qu'Under the Skin, j'ai plus de misère à comprendre comme quoi c'est un film de boy, mais en tout cas.
Non, ben, c'est sci-fi, tu sais, puis je veux dire, Scarlett est ben. Tu sais, c'est le personnage. Je sais pas, là. En tout cas, moi, ça m'a pas allumé, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Non, mais on a des grands sensibles là, dans notre équipe masculine, Delphine, quand même. Là, quand je regarde toi la liste, tu sais, Benjamin avec Certain Women en numéro 2, Olivier avec Portrait de la jeune fille en feu en numéro 2. On est des grands sensibles quand même. Mais c'est correct. Écoute, puis surtout qu'en fait, ça a juste fait miroiter parce que dans le top commun, effectivement, oui, la grosse affaire, c'est qu'il y a seulement Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma qui a comme eu assez de points là, selon nos calculs de points. Pour être dans notre liste. Mais quand je regardais un peu, tu sais, dans nos listes individuelles, les films étaient super variés parce qu'il y avait quand même beaucoup de films de réalisatrices. Tu sais, toi, Delphine, je sais que t'as mis Lenny Ramsey avec We Need to Talk About Kevin, t'as mis Sciamma, mais pour d'autres films, Tomboy.
Puis, Bande de filles.
Puis Bande de filles aussi, ouais.
Non, juste Bande de filles. J'ai pas vu Tomboy encore.
Ah, OK.
Puis j'ai mis Frances Ha. En fait.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je sais qu'Olivier, il en a mis d'autres gens et tout. Tony Erdmann, évidemment. Bon, bref. Puis, moi, j'ai mis Adrien Arnold, bien entendu. Même Catherine Bigelow avec Zero Dark Thirty, que je suis tout le temps tout seul à aimer ce film-là. Genre, on dirait que je sais pas pourquoi, là. Mais parce qu'il y avait comme des critiques dithyrambiques quand il est sorti. Puis, il y a comme zéro conversation sur ce film-là.
Ouais, le monde l'a oublié, là.
Ouais, un peu, mais je.
Ben, c'est un peu comme Paul qui tripe sur Noah, tu sais.
Ben, ah non, elle a, c'est une catégorie, là. Calmos.
Hey, wow!
Non, mais c'est ça, mais en fait, c'est qu'on peut voir ce qui manque, mais on peut aussi voir ce qu'il y a, c'est-à-dire, c'est comme si les films se sont peut-être annulés, tristement, mais heureusement, il y en avait quand même beaucoup, c'est-à-dire, il y a une profondeur dans les films de réalisatrices. Fait que, tu sais, si on le regarde comme le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, je trouve que c'est pas si un constat pas si désolant, mais je pense que c'est juste voué à prendre du mieux, tu sais, puis c'est, tu sais, juste moi, je regarde ma diète cinéphilique un peu les films que je regarde, puis il y en a comme de plus en plus, parce que je pense que l'offre est de plus en plus, dans le sens, il y en a de plus en plus de films, de réalisatrices qui sont faits, qui m'intéressent, puis il y a des films même que je vois que je sais même pas que c'est des réalisatrices, j'ai écouté The Juniper Tree, là, je vais en parler plus tard, je savais même pas que c'est une réalisatrice, mm-hmm. J'ai trippé sur ce film-là, puis finalement, je me suis rendu compte à la fin, tu sais, ça a aucunement teinté ma vision de l'œuvre. Puis c'était juste comme un peu une genre d'agréable surprise, mais en même temps, so what, d'une certaine façon, ça, tu sais, j'étais comme content de pas le savoir puis de pas aller vers ça parce que, tu sais, bref, on pourra en parler longtemps.
Faut dire aussi que c'est difficile, hein, tu sais, l'éventail de films qui sortent en 10 ans, là, tu sais, d'aller chercher des réalisateurs internationaux, aller chercher des réalisateurs, tu sais, qui sont des réalisatrices, pardon, tu sais, c'est difficile, puis, tu sais, si les gens regardent nos listes, c'est tellement varié, tu sais, oui, il y a des films qui se retrouvent dans toutes les listes, mais il y a plein de films qui se trouvent seulement dans les listes individuelles, tu sais, je veux dire, c'est difficile, là, de...
Puis surtout, ça, nous, on fait ça pour le fun. T'sais, nous, on fait, c'est vraiment un exercice. Ben oui, ben oui. Dans un sens, c'est un peu futile, mais en même temps, c'est justement, j'ai quasiment plus de plaisir à répondre aux commentaires, puis en parler avec vous, puis débattre de comme, oh non, ça n'a pas de bon sens qu'il manque tel film ou tel truc, que de vraiment établir la liste comme si ça avait une autorité quelconque. Là. Dans un sens, c'est juste aussi une façon de faire découvrir des films qui nous sont précieux, puis c'est un peu ça. Là.
Totalement.
Mais ça m'a quand même surpris qu'André Arnold ne s'y retrouve pas. Puis, soit André Arnold ou Tony Herman. Je sais qu'il y a un gros consensus autour de Marinadé. Je sais que toi, Paul, t'es un petit peu tienne, mais en tout cas, moi, j'avais vraiment trippé sur ce film-là. Il y a beaucoup de gens qui avaient trippé sur ce film-là. Ça a été des omissions qui m'ont un peu surprise.
Mais tu sais, c'est la game aussi des consensus, parce que moi, c'est des films qui apparaissaient dans mes tops des années, mais là, d'en choisir 25 sur 10 ans, ben, ils sortent de la liste, malheureusement. Tu sais, American Honey et Tony Herman faisaient partie de mes listes annuelles. Fait qu'ils étaient dans mon top 100, mais pas dans mon top 25. Fait que c'est sûr que ça part des points où j'ai pas vu, moi, le portrait de la jeune fille en feu. Fait que peut-être si je l'avais vu, il aurait été encore plus haut dans le top ou pas, là. Fait que, ouais, c'est ça, c'est le vilain jeu du consensus qui peut nous jouer des tours comme ça.
Ouais.
Ou encore, quand certains cinéastes ou des courants ou des écoles, quand il y a un certain pan de la cinéphilie qui ont plusieurs films dans une décennie, ben, dans un sens, ils vont peut-être un peu se jouer l'un contre l'autre. Comme Hong Sang-soo, c'est un cinéaste un peu incontournable de la décennie, selon moi, mais il fait tellement de films que c'est dur d'en pointer un en particulier puis se dire « celui-là, ça représente vraiment le meilleur de la décennie. »
Puis, tu sais, je veux dire, moi, je parle pour moi, les trois films de Yorgos Lanthimos qui a fait dans les dernières années se sont retrouvés dans mon top. Bon, est-ce que c'est parce que ça fait 2 ans que je suis obsédée par ce réalisateur-là puis que j'ai décidé de les mettre? Mais, tu sais, si j'avais à refaire l'exercice dans 10 ans, peut-être que ça serait différent aussi, tu sais. Il y a cette espèce d'engouement, comme tu dis, là, pour des réalisateurs ou des courants, tu sais, puis c'est normal en même temps, tu sais.
Mais moi, no shame, dans mon top 10, j'ai genre 2 films de Paul Thomas Anderson, 2 films de Billy Chang Dung, puis genre 2 films de Todd Haynes, je pense, ou quelque chose comme ça. Tu sais, j'ai vraiment comme... Il y a comme quelques cinéastes, là, comme haut dans le top, qui ont comme plus qu'un film, puis c'est ça qui est ça, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Tu sais, c'est des cinéastes qui me parlent particulièrement, puis je vais pas commencer à amputer, mettons, l'œuvre B, parce que, tu sais, au détriment de l'œuvre A, ou vice-versa. En tout cas, c'est pas parce qu'une séparation, je tripe sur une séparation que je vais écarter un film comme Le Passé, qui est, oui, peut-être moins bon, mais qui reste en comparaison avec l'offre cinématographique, à mon raisonnable avis, c'est un des meilleurs films de la décennie, pareil. Fait que j'ai pas non plus discriminé là, les films sur cette base-là. Là. Si Paul Thomas Anderson avait fait un autre, peut-être qu'il y en aurait eu un autre. Mais quoi qu'il a fait Inherent Vice, mais Inherent Vice.
Ouais, tout le monde le met de côté un petit peu. Là.
Oh well.
Mais
une belle variété, comme on disait, de d'histoires, de films, de tons, de pays, de cinématographie aussi. Là, tu sais, je pense pas qu'on peut se faire accuser d'avoir été, par exemple, trop américano-centrique, par exemple, ou trop. Bon, bref. Un seul digne représentant québécois dans le lot, on peut le mentionner, Paul?
Oui, le 20e siècle, mais moi je suis quand même très content aussi parce que se dire top 25 du cinéma mondial d'une décennie, c'est quand même quelque chose de gros, puis est-ce que c'est l'espèce de buzz, il y a toujours une question de comme, quand c'est récent, peut-être que les films sont frais dans notre mémoire, puis là soudainement c'est comme la claque que personne s'attendait, un peu le film est sorti nulle part, mais un peu le underdog là, le 20e siècle. Ouais.
Mais en même temps, avec son parti pris esthétique, je pense que c'est un film qui va moins vieillir que d'autres films, vu que c'est tellement un objet unique en soi que ça va être difficile de prendre de l'âge comparativement, mettons, un film qui va travailler avec des technologies modernes sur des sujets ultra contemporains. Je pense que le fait d'avoir été champ gauche comme ça, ça va lui donner une petite touche peut-être éternelle à ce film-là.
Ouais, ben oui.
Puis quand même, tu sais, mine de rien, premier top d'une décennie pour l'équipe de Point de Vue, c'est quand même de quoi qui est cool. On parle d'un petit blog comme ça qu'on fait à temps perdu, puis j'en tire une grande fierté qu'on soit rendu là, puis qu'on commence donc cette nouvelle décennie de cinéma, dans des circonstances certes pas faciles. D'ailleurs, Delphine, on se demandait justement, toi de ton côté, comment tu vis un peu cette période de confinement? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as l'occasion de voir des films? Comment ça se passe de ton côté?
Oui, moi, je suis à la maison comme pas mal, probablement vous aussi, là, depuis plus d'un mois. Puis j'ai la chance d'avoir encore mon emploi, fait que je travaille de la maison. Fait que ça fait que j'ai quand même du temps libre, mais c'est ça, je continue quand même à travailler. Fait que tu sais, moi, je peux pas faire des siestes durant l'après-midi, puis j'ai pas fait de pain. Fait que j'essaie de pas me culpabiliser que j'ai pas fait de pain, puis que je fais d'autres choses. Mais...
Tu t'as pas genre toute la filmographie de Stephen King, mettons. Là.
Oh my god!
Écoute!
On en reparle tantôt de ça.
Mais.
Lâche pas, là.
J'ai décidé de. En fait, tu sais, j'écoute un peu de Netflix, mais j'ai décidé, guys, de ne pas rentrer dans la débilitude et de ne pas écouter des affaires comme Tiger King. Genre, je me suis dit, non, moi, je vais pas là. Puis à la place, ben, je vais profiter de mon Criterion Channel. Fait que c'est ça pas mal que je me suis dit, tu sais, oui, j'écoute, c'est ça, des petits films légers que vous pouvez voir dans mes reviews de Letterboxd. Mais c'est ça, j'essaie de me dire, écoute, go, t'as le temps. Écoute des films, tu sais, comme plonge direct dans Criterion, puis écoute des trucs de réalisateurs que tu connais pas, ou tu sais, des trucs que j'aurais voulu écouter il y a longtemps, puis que, tu sais, ça c'est toujours comme un rendez-vous manqué. Puis je vous dirais que j'ai pas mal une lignée de réalisateurs français. Bon, je sais pas pourquoi c'est ça qui est arrivé, mais bon, je suis comme allée dans cette vibe-là. Tu sais, au début, j'écoutais du Jacques Demy, j'écoutais du Jean-Luc Godard... Léo Carax aussi, puis ben Romère, puis ça on pourra en revenir là, parce que Romère, moi là guys, à ce moment je ne comprends pas, puis je pense que je vais avoir besoin d'en discuter, mais mon gros coup de cœur et découverte là, j'ai l'impression que à l'aube de mes 30 ans de découvrir un réalisateur comme ça, c'est comme un cadeau là, puis c'est Maurice Pialat.
Ben oui.
Ouais.
Ben oui, maison.
Hey, je sais vraiment pas de qui tu parles, Delphine, je m'excuse tellement.
Man, t'as-tu vu Delphine? T'as-tu vu son Van Gogh? Son film sur Van Gogh?
Non, c'est celui qui me reste encore, là.
Ah, c'est fucking bon. Ben là, mais t'as vu sûrement à Nos Amours.
C'est le premier que j'ai écouté. Ouais.
Ouais, c'est ça.
Mais tu sais, Rémi, si tu veux que je te fasse une petite introduction, parce que j'ai fait une
petite recherche. S'il te plaît, là, je me sens vraiment inculte. Là.
Maurice Pialat, là, c'est comme, il est comme en sandwich entre la nouvelle vague française puis la deuxième vague avec Romère et tout. Fait qu'il est comme, c'est ça, à la fin de la nouvelle vague, là, il a fait son premier film, genre fin des années 60. Puis, j'arrive pas à te dire pourquoi j'ai autant d'affection envers ces films. Parce qu'il y a quelque chose... Mais ces personnages, la majorité, c'est vraiment pas des personnages auxquels tu t'attaches. Genre, c'est toujours des histoires, genre, de causes perdues. Genre, des histoires d'amour que tu sais que ça marchera pas. Des personnages qui sont tellement exécrables. Il y a toujours des chicanes de famille, puis ils se foutent des claques sur la gueule à chaque maudite fois. Mais il y a... À chaque fois qu'il y a un film qui termine, j'ai l'impression que j'ai un attachement profond à ces récits-là, tu sais.
Mais t'aimes un peu de qu'est-ce que je connais de tes goûts, là? T'aimes un peu les cinéastes borderline nihilistes, là, aussi, là, un peu amers, là, tu sais, comme un peu dur, un peu froid, là, tu sais.
Totalement.
C'est que Pialat, il y a un petit peu ça, tu sais, c'est écoute, tu sais, les Français sont bien vite sur les comparaisons, là. Ils disent que c'est un peu le Cassavetes français. Bon, moi, je suis plutôt en désaccord avec ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a comme une affinité pour un cinéma qui est pas trop contrôlé, à part peut-être Sous le soleil de Satan, puis Van Gogh, ses films plus tardifs sont un peu plus rigides, mais tu sais, à Nos Amours, il y a une scène où lui il joue dedans, puis tu sais, mettons, il débarque à l'improviste, puis personne savait qu'il était in character, puis genre, il surprend tout le monde à la table à souper, tu sais, bref, tu sais, c'est ce genre de stunt-là, là. Personne savait là, que ça allait se passer, par exemple.
Ah, okay.
Ça, c'est ce genre de méthodologie-là là, qu'il préconisait, mais c'est surtout que c'est un grand amer, là. Tu le vois dans ses entrevues, c'est un peu un emmerdeur, il se crisse du décorum, il se crisse de Cannes, il se crisse de tout, là, tu sais.
Mais ça, c'est l'image de l'artiste maudit, qui est tellement romantique, puis qui est tellement français aussi, là. Il y a quelque chose de... Puis tu sais, un cinéaste comme, mettons, Arnaud Desblechin, c'est un peu ça aussi, là, l'espèce de d'intello romantique. Pas que leur cinéma soit tout à fait pareil, là, mais...
Puis là, c'est plus dur, là. C'est plus un regard plus misanthrope, là, plus...
Il y a un film qui s'appelle « Nous ne vieillirons pas ensemble », qui est sur l'histoire d'un couple épouvantable, puis ça va pas, puis ils savent que ça va pas, puis le mec... Ah oui, puis ça aussi, il faut le dire, hein. Puis là, c'était pas un féministe, OK? C'est genre... Il dénigre la femme, puis encore une fois, pourquoi j'ai autant d'affection pour ces films? Je ne comprends pas. Mais
t'es maso. Ben, les films, t'es maso, en fait. C'est ça
que mais je crois qu'il y a quelque chose aussi de fondamental dans des personnages et des récits qui sont pleins de failles. En fait, c'est qu'ils sont profondément humains.
Ouais.
Tu sais, un personnage vulnérable, un personnage... c'est tellement plus impressionnant. T'sais, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'un vilain, c'est plus intéressant qu'un héros. Là. Mettons qu'on parle de super-héros ou juste de trame narrative classique. Là. Le fameux héros exempt de tout reproche est un peu plate. Là. Le Ulysse. Là, donc, c'est pour ça que justement des espèces de personnages comme ça torturés ou des histoires d'amour justement qui sont vouées à l'échec, ben il y a quelque chose de profondément fascinant pour ça.
Ouais, puis tu sais, on a il a découvert Sandrine Bonheur qui est tellement belle et tellement bonne dans les films. T'as aussi Gérard Depardieu qui était très jeune qui a joué dans Loulou notamment. Puis tu sais, c'est ça, Maurice Pialat, il a joué dans certains de ses films dont Sous le soleil de Satan qui est le film avec lequel il a gagné la Palme d'Or cette année-là, qui avait fait un espèce de gros scandale parce que il y avait je me rappelle plus qui aurait dû gagner contre lui. Mais c'est comme tout le monde à Cannes était vraiment comme révolté, puis c'est l'histoire. Puis ça, moi j'ai vraiment trippé parce que bon, vous savez mon amour pour Robert Bresson, Journal d'un curé de campagne versus ce film. Donc Sous le soleil de Satan, là, rapidement, c'est Gérard Depardieu qui est un curé qui est genre en espèce de panique sur la vie, puis que genre ça va pas là, puis il y a tellement de similitudes avec le Journal d'un curé de campagne, puis c'est basé sur deux romans du même auteur. Fait que moi je suis juste comme ben c'est parfait, tu sais. Puis en tout cas, puis Maurice Pialat joue aussi dans ce film là, puis il est super bon, puis vraiment faut entendre tout mon enthousiasme dans ma voix, c'est vraiment comme une super belle découverte.
Cette année-là, je l'ai sous les yeux, la compétition à Cannes, puis j'imagine qu'il devait avoir un consensus autour de Les ailes du désir de Wim Wenders.
C'est ça, exactement.
Il y a plein d'autres films, évidemment, de bons là, dans la compétition cette année-là, mais c'est, mettons qu'on parle de transcendance, là, je pense que c'est lui qui a peut-être le plus transcendé. Là. Mais non, Sous le soleil de Satan, je regarde les autres, puis c'est un pas pire choix quand même.
Puis, tu sais, Rémi, si je peux te conseiller, toi qui ne connais pas Piala, ben c'est sûr qu'À nos amours, c'est vraiment le classique, là. Mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé celui qui s'appelle Passe ton bac d'abord. Puis c'est vraiment c'est le coming of age parfait. Puis c'est sur genre la... Tu sais, je sais que t'aimes ça, toi aussi, là, les films coming of age, là.
Ouais.
En tout cas, fait que ça, c'est vraiment parfait.
Rémi, grand amoureux, toi.
Ouais, quand même. Hein. Check mon top, pour vrai, avec Moonrise Kingdom puis Boyhood, là.
Ben, c'est ça. Mais je me semble que j'ai un feeling que t'aimerais ce film-là.
Moi, je suis toute là.
Super, donc.
Je suis toute là, mais malheureusement, j'ai cancellé mon abonnement Criterion ce mois-ci. Juste avant la pandémie, en fait, comme un cave. Mais je regardais j'en ai parlé sur un podcast.
Je te vois tellement avec genre plein de gens comme un à côté de l'autre, faire comme bon, ça c'est clair qu'on n'aura pas de besoin pour encore plusieurs mois. Cancel.
Hey, non, mais ce qui m'a fait réagir, et je pense que j'en ai parlé, là, c'est une petite parenthèse, mais c'est quand j'ai rentré toutes mes DVD puis mes films que j'ai sur mon ordi, sur mon Letterboxd, puis je me suis rendu compte que ma collection DVD, j'ai vu 60% des films. Là, j'étais comme, hey, ça n'a pas d'allure, là. Je paye du Criterion à tous les mois. Puis j'ai comme 400 films que j'ai pas vus chez nous, là. Fait que c'est pour ça, je vais peut-être me réabonner, là, mais là, présentement, mon but, c'est de traverser les DVD que j'ai achetés à la pelletée pendant toutes ces années-là, puis que j'ai pas regardé.
Moi, ce que j'aime le plus de cette anecdote-là, c'est que là, t'as commencé par dire le pourcentage des films que t'avais pas vus. Puis là, les gens, souvent, ils vont écouter ça, ils vont se projeter, ils vont dire « Ok, moi, j'ai genre 100 DVD, fait qu'il a pas vu 40%, ça va être peut-être 40 films. » Tu te dis « Fait que j'ai 400 films que j'ai pas vus.
» J'ai genre 1000 DVD, je sais. Ça n'a pas d'allure. Plus des box sets. Tu sais, la collection Alfred Hitchcock des films muets que j'ai payé 10$, puis il y a genre 20 films dessus. À un moment donné, je vais peut-être passer au travers. Aïe, excusez-moi cette parenthèse-là.
T'étais faite pour la quarantaine, c'est correct.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est vrai que, tu sais, si une façon de bien voir les choses, c'est que c'est le moment idéal pour tous ces trucs qu'on se disait, genre, un jour, je vais me taper l'Hitchcock, un jour, je vais faire ça, un jour, je vais, tu sais.
Donc,
c'est un bon moment pour ça.
Parlant de ça, là, juste avant qu'on change de sujet, parce que moi, c'est vraiment important que j'en parle avec vous, parce que j'ai besoin qu'on en parle pour que je comprenne ou je comprenne pas, là. Beaucoup de gens m'avaient dit, ah, tu vas aimer Eric Rohmer. C'est vraiment dans ton genre de film et tout. Et là, j'ai écouté deux films de ce cher Rohmer et je n'arrive...
T'as vu lesquels? Écouté... C'est vraiment hit and miss pour moi. Pour vrai. Écouté... Là, je suis vraiment pas un grand fan, là, tout le temps, là.
Ben, j'ai écouté Le Genou de Claire et La Collectionneuse.
Et lequel? La Collectionneuse?
Ouais.
T'as vu deux de ceux que moi non plus, j'ai vraiment pas trippé. Je te dirais, si tu veux y redonner une chance, à mon humble avis, là, puis j'ai pas tout vu, là, je sais qu'il y a des gens plus calés que moi dans Rohmer, là, mais Le Rayon Vert, c'est peut-être mon préféré, puis Ma Nuit chez Maude, je pense que ça, c'est quand même un incontournable, là, c'est un petit plus coté, c'est plus connu.
Ouais, mais j'ai comme plus le goût, puis je suis comme déçue, parce que, tu sais... Puis autant, Rohmer, là, tu sais, si je compare ces deux films-là avec des films de Piala, là, on a quand même des thématiques qui reviennent, avec des personnages détestables des deux côtés. Mais il y a quelque chose chez Rohmer que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas. Tu sais, contrairement à Piala, puis là, j'entends déjà des gens qui sont genre, c'est un blasphème, mon Dieu Seigneur.
Non, mais il y a de l'intelligence dans ses élans philosophiques. Puis, tu sais, je veux dire, il y a quand même un regard plutôt, plutôt brillant, tu sais, sur les relations, I guess. Mais je t'entends, en fait. Je suis pas non plus un grand défenseur. Je trouve que ça manque de pouls. Ça manque de guts un peu. Je sais pas, tu sais, c'est intello. C'est pas aussi pire que Rivette, mais comme... mais pas expérimental tant que ça non plus, fait qu'on dirait que tu perds cet effet-là. En tout cas, tu sais, c'est un peu fade à mon œil, moi aussi, Rohmer. Fait que si, on va être deux à se faire lancer des roches au pire. Là.
Paul, est-ce que t'as déjà. Qu'est-ce que t'en penses, Paul?
Ben, j'en ai vraiment pas vu beaucoup, en fait. J'en ai vu quelques-uns. Je me rappelle, j'avais beaucoup aimé Quatre aventures de Renette et Mirabelle.
Mais j'ai pas vu, lui.
C'était comme un peu des scénettes, là, avec une poignée de même personnage, là. Mais en fait, c'est ça, c'est quasiment. Tu sais, si tu voulais faire une parodie, mettons, là, genre RBO de c'est quoi du cinéma français intello, là, d'auteur, là. Mais tu sais, c'est un peu ça le modèle, tu sais, parce que c'est vraiment comme des discussions, des gens qui flânent, tu sais, des premiers amours, des amourettes d'été. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de très léger, de très dialogué, de très écrit. Et donc, tu sais, quelqu'un qui s'intéresse à la culture française, qui s'intéresse au cinéma français, ben, on va rapidement lui conseiller d'écouter du Rohmer, tu sais. Mais, tu sais, j'ai vraiment pas vu toute sa filmographie. Mais les quelques films que j'ai vus, j'ai beaucoup aimé ça. Mais c'est très léger. Tu sais, pour moi, c'est un peu... Tu sais, comme un Aung San Suu, ça se rapproche un peu de ça, je pense. Là, puis je pense que c'est le genre de cinéaste, justement, que peut-être que contrairement à d'autres, c'est peut-être pas la meilleure idée de les écouter rapidement, tu sais. Puis là, genre, quand on est un peu en confinement, c'est l'occasion, genre, de se dire, ah, je vais me taper la filmographie de X personnes. Mais vu que c'est souvent des variations, un peu comme un Desplechin aussi, je trouve que c'est des cinéastes comme ça qui s'apprécient, je pense, vraiment dans le temps. Il faut laisser des pauses un peu parce que c'est pas des bingeables. Là, c'est pas des cinéastes que tu dis, je vais tous les taper en fin de semaine 6 films de Aung San Suu ou de Desplechin. J'ai l'impression que tu vas finir par t'ennuyer un peu. Là.
Puis je pense pas qu'il faut aveuglément aussi aimer des cinéastes du canon, là, aussi, là, tu sais, puis je pense qu'il y a certains cinéastes qui vieillissent mieux que d'autres. Oh. Mais...
Non, mais merci, en tout cas, c'est ça, ben, en fait, je pense que je suis déçue de pas triper, tu comprends? Mais, tous les goûts sont dans la nature.
Puis Rohmer aussi, c'est comme un des plus accessibles aussi. Parce que c'est un cinéaste que tu sais, tu pourrais écouter ça avec ta mère, ta grand-mère, ta cousine. Tu sais, c'est plus un cinéaste accessible, mettons, tout en ayant du flair. Tu sais.
Mais Manu Chaimont fait un petit peu exception à ça. Il est un petit peu plus sharp, il est un petit peu plus nocturne. Ben, tu sais, déjà, il est en noir et blanc, il y a quelque chose. C'est Jean-Louis Trintignant, là, tu sais, au sommet de son art et de sa forme. C'est un film de 1969. Il est comme plus. On dirait plus dense à défaut d'avoir un autre mot, là. Fait que, tu sais, peut-être que si tu veux du gros cinéma, c'est majuscule, là. Il y a de l'humour dans La Nuit chez Maude, mais il y a comme... C'est un gros mais, là, tu sais, parce que des fois, c'est vrai que ça fait un peu amourette, là. Ça fait un peu... je prends une petite crevette, là, sur le bord de la piscine, là. Fait que...
Mais c'est ça. Imaginons, mettons, que la génération de nos parents qui ont connu peut-être quelques-uns de ces films en salle, tu sais, à l'époque là, où le cinéma français était beaucoup plus importé ici. Puis là, t'es l'hiver là, au Québec, là, il fait froid. Puis là, tu vas voir comme le genou de Claire. Là, il me semble que je suis sûr que le timing devait y être pour beaucoup. Là, le côté justement exotisme, puis plage, puis amourette d'été. Puis, il y a quelque chose de. Parce qu'il y a toujours une relation très très forte entre le Québec et la France. T'sais. Donc, j'ai l'impression que son cinéma est vraiment le représentant d'une image de la France qu'on se fait. Là.
Hey, je me sens tellement off of the game, là.
Mais non, mais Rémi, parle-nous de Stephen King.
On a notre petit frère attardé qui vient parler de Stephen King sur le podcast pendant qu'on parle de Romère. Mes line-up, c'est tous des réalisateurs d'horreur que genre j'ai vu plein de films à travers ma vie, mais que j'ai jamais creusé plus loin. Tu sais, là, je suis en train de regarder du Toby Hooper, du John Carpenter. Il m'en restait juste quelques-uns. Je pense qu'il m'en reste trois à voir. Fait que tu sais, dans ces filmographies-là, mais je suis tellement dans un autre registre de vous autres. Là. En tout cas.
Ben, c'est correct. Tant que ça te rend heureux.
Ouais.
Mais là, fait que là, t'es rendu. Non, mais quand même, tu sais, on rit beaucoup des adaptations de Stephen King parce que c'est vrai que la moyenne au bâton est pas élevée. Mais là, c'est temps-ci, t'en écoutais quand même des pas mal meilleurs que la dernière fois. Là.
Ben, en fait, je suis allé dans les deux extrêmes. Ben, non, mais c'est parce que, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas écouté, moi, un des buts là, que je me suis donné, un des trips que j'ai, c'est de regarder les adaptations de Stephen King. Là, je suis rendu à 31 films de vues. Ça, c'est pas tout pendant la quarantaine, on s'entend, là, mais il y en avait que j'avais déjà vu.
Mais pas les séries télé ou pas?
Puis pas les séries télé, là, pour l'instant. Là, on se calme, okay. Là. Les 6 saisons de Under the Dome, des chips de même.
Ouais, mais t'as écouté genre The Stand, là, c'est une mini-série.
Ouais, OK. Bon, c'est ça. Fait que là, la dernière fois où j'en étais, j'allais regarder Pet Sematary, le remake, qui est d'après moi pas mal moins bon que l'original. Là, il y a comme eu des t'sais, c'est tellement cliché de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est comme une adaptation qui est vraiment dans l'air du temps, puis ils l'ont fait pour que ça a l'air d'un film d'horreur contemporain. Là. Fait que tu sais, c'est il y a comme pas de prise de risque comme tu peux voir dans les vieux films. Je trouve que c'est un peu fade là, pour ce que c'est. Bon, mais c'est pas mauvais, là. C'est juste comme un peu fade, là, comme je dis. Puis après ça, je me suis tapé de Stand. Ça, c'était comme le gros morceau que j'ai hypé. C'était rough. C'était vraiment rough. Je l'ai regardé
c'est quoi,
au complet.
C'est quoi,
The Stand?
Je connais rien de ça. C'est quoi?
The Stand ou Le Fléau en français, c'est considéré comme un des plus grands livres de Stephen King.
Ben, c'est livre, oui. Ben non, mais je connais les livres, mais comme c'est une série en fait autour de ça.
Ouais,
une
mini-série.
Une mini-série de 4 épisodes. Chaque épisode dure 1h30. Puis c'est réalisé par Mick Garris, que j'avais parlé dans l'autre épisode avec Sleepwalkers, le film avec les Werecats. Fait que Mick Garris, qui est vraiment pas le meilleur réalisateur, mais qui est un rassembleur, là, qui a produit Masters of Horror, une série où il a ramené les vieux réalisateurs pour faire des nouvelles œuvres. Puis c'est comme un gars super impliqué dans le milieu de l'horreur, mais c'est pas un génie de la réalisation. Là. Il remplit le mandat, puis il livre ses affaires. Puis c'est un peu ça, là, de Stan, là, c'est une mini-série début 90 de Stephen King. C'est un livre en fait qu'ils voulaient adapter en film, mais ils n'ont jamais réussi à avoir l'argent parce que c'était beaucoup trop coûteux. Fait qu'ils ont décidé de l'étirer sur 6 heures puis de faire ça de la façon la plus cheap possible. Puis chaque épisode, c'est les étapes d'une pandémie. Fait que c'est un peu pour ça que je me suis dit que c'était un bon moment pour le regarder. Je dirais que le plus fort, c'est probablement la première partie parce que c'est là que le fléau se déclenche. Que les gens commencent à être infectés. C'est un petit peu plus radical que le COVID. Là, les gens meurent un peu plus graphiquement que le COVID. Mettons, on est entre le COVID puis Tchernobyl. Là. On est un petit peu entre les deux. Puis c'est ça, c'est toutes les retombées en fait sur la société, le premier épisode. Puis comme les films les gros romans de Stephen King, c'est un truc qui se fait un peu en chorale, là. C'est une histoire qui est en chorale avec plein de personnages qui finissent par se retrouver à un point, ils vont se séparer, se retrouver. Fait que c'est ça, fait que chaque épisode c'est comme un step de ça. L'épisode 2 c'est on suit les personnages dans le monde désert, il n'y a plus personne dans les villes, tout est laissé à l'abandon, ils essaient de se retrouver à travers ça. On sait pas trop exactement pourquoi certaines personnes pognent pas la maladie, mais écoute, ça doit être expliqué dans le livre. Là on a juste 6 heures de télé pour expliquer la situation, fait que J'en ai peut-être perdu un bout, là, sérieux. Des fois, j'étais comme un peu sur un zombie en le regardant. Là. C'est assez slow pace. C'est ça. Je continue, en fait, l'épisode 3, là, on est dans un genre de petite société qui s'est recréée dans une ville qui fait très, très Walking Dead. Là. Il y a comme les épisodes de Walking Dead où là, t'as juste le bunker avec des gens qui vivent là puis qui interagissent entre eux. Puis la finale, là, ça vire comme du gros n'importe quoi. Il y a genre un bonhomme qui erre. C'est un gars qui a une coupe Longueuil puis un coat de jeans avec des yeux qui brillent. Puis c'est comme un démon. Puis il se promène, puis genre, il se crée une armée autour de lui. Cool. Puis dans le dernier épisode, il y a comme un showdown avec lui à Las Vegas. Fait que c'est comme épique, mais tellement what the fuck.
Rémi, tu sais quoi? Ce personnage-là, en fait, c'est dans l'univers de Stephen King, parce que plusieurs de ses livres sont reliés, c'est le même personnage que celui qui interprète Matthew McConaughey dans The Dark Tower.
Ah, oh, ouais!
J'ai assez de ça, Delphine, puis moi, on va aller parler...
Ouais, c'est ça, moi, je suis allé, c'est génial!
On va faire un side chat à côté.
Okay? Non, mais j'achève, je m'excuse. Je m'excuse.
Parle de lui, Pascal.
Ouais, parlez donc de Romère, c'est bon. Sur le side, là.
Ah, ouais. Hey, Rémi, vous a écouté, là, parler de Pierre-là, puis Romère, là.
Mais par exemple, j'en ai regardé un hier puis un aujourd'hui. Puis c'est vraiment deux crises de bons films là, que je veux suggérer fortement. Hier, j'ai écouté Christine, que j'avais vu il y a très longtemps. Je m'en souvenais à peine. Puis c'est un John Carpenter. Fait que j'ai comme coché deux cases dans mes listes, dans mes watchlists. Fait que Christine, qui est sur le bon, je pense que le monde connaisse quand même l'iconographie de ça, qui est la voiture rouge qui tue des gens. Mais ça reste que la voiture est comme une extension à la personnalité de notre personnage principal, qui est un petit nerd effacé qui finit par se pogner ce char-là et qui devient super confiant, mais un peu trop. Puis sa vie commence à prendre le bord alors qu'il prend confiance, lui, de son côté. Puis c'est un bon John Carpenter quand même, qui est assez accessible, qui est le fun, qui est drôle. C'est pas juste de l'horreur, il y a quand même un peu d'humour dedans. Puis les effets, ils sont quand même impressionnants. Il y a une scène où Christine se fait démolir, puis elle se reconstruit, mais c'est comme tournant en reverse. Fait que l'auto, elle se reforme, puis elle redevient toute belle. Puis c'est comme des effets qu'aujourd'hui, ils feraient tout en CGI, mais là, tu sais que c'est comme des effets pratiques. Là, tu peux sentir la texture autour de la voiture. Ouais, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Je trouvais que c'est probablement dans les meilleures adaptations de Stephen King. L'avez-vous vu? Juste comme je parle non-stop, non. Mais...
Celui-là, non, je pense pas.
Entendu parler, par exemple, mais tu tiens, je viens de l'acheter à ma watchlist.
Non, mais pour vrai, ça vieillit quand même bien. Puis, tu sais, John Carpenter a sa signature. Je pense que sa trame sonore aussi, là, qui est toujours iconique, là, quand t'entends le petit keyboard de John Carpenter, il y a comme une atmosphère qui se crée automatiquement.
Ouais, ouais.
Puis l'autre que j'ai regardé, le quatrième que j'ai regardé depuis le dernier podcast, c'est The Dead Zone, qui là cochait une case David Cronenberg. C'est un film qui est souvent oublié, je pense.
J'ai l'impression de te voir avec genre ta grille de bingo devant toi. Puis là, genre, qu'est-ce qui manque pour faire une ligne là? Il manque un
truc. Christopher Walken, David Cronenberg, adaptation de Stephen King. Bingo!
Hey, non, mais pour vrai, c'est sur tous les films de Cronenberg, c'est rare qu'on parle de Dead Zone. Puis pourtant, moi, ça m'a vraiment brassé. Là. J'ai vraiment, vraiment trippé. Il y a comme eu une suite à ça par après. Je pense que c'était une série télé. Il y a comme eu un film puis une série télé. Fait que ça a quand même spawné d'autres affaires. Mais le film d'origine, qui est avec Christopher Walken, c'est très, très fort. En gros, c'est un professeur qui pogne un accident de voiture puis il part dans le coma pendant 5 ans. Puis quand il se réveille, quand il touche les gens, il peut voir des trucs horribles qui vont leur arriver ou qui vont arriver aux gens de leur entourage. Fait qu'il devient une espèce de ben, comme un devin. Là. Il a comme des pouvoirs de prédiction. Puis il va entre autres se matcher à la police pour les aider à résoudre des crimes. Fait qu'on voit qu'il y a déjà une prémisse de show de télé là, là-dedans. Mais le film, il est fait avec le soin que peut prendre un David Cronenberg. Puis je dirais que c'est comme un film qui est comme dans son switch vers le... Ben, pas tout à fait, là, mais tu sais, c'est un peu comme The Fly où ça reste quand même accessible. C'est pas rendu trop surréaliste et difficile d'accès pour monsieur, madame, tout le monde. C'est un film qui est assez simple à regarder, mais qui est comme riche au niveau des thématiques, puis qui est très fort aussi au niveau des performances. L'histoire est vraiment bonne. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment un excellent film. Je suis comme vraiment content d'en découvrir encore des bons rendus là, parce que je check ma liste des films à venir dans la filmographie Stephen King, puis je fais hey, boy, c'est ça, si je veux passer au travers là.
Il faut que t'en mettes un bon de temps en temps, mais tu te les gardes, tu sais, comme ok, là je serais dû pour un Frank Darabont là, puis là qu'après ça je retombe dans des trucs pourris.
Hey, je veux pas vous hyper là, parce que ça se peut je passe jamais au travers, mais chez nous là, j'ai la collection DVD des Children of the Corn. Savez-vous combien il y en a? Genre, prenez un guess, combien il y a de Children of the Corn?
Bon, ben, merci beaucoup, Rémi, non, pour cette mise à jour.
Tu veux juste pas répondre, là. Non, je te dis, combien il y en a de Children of the Corn?
4?
Je sais pas, man.
10.
Il y en a...
C'est ça, hein? C'est pour qu'il fasse un coffret.
Il y en a 10. Il y a 10 films.
Le dernier est sorti en 2018. En avez-vous entendu parler, guys?
Non.
Oh.
Ils en font encore, là. Ils font encore des films de
c'est genre
des
films
de
que
corn.
Fantasia refuse.
Oui, c'est ça.
Hey, je pense que j'ai jamais vu ça passer de toutes mes années dans des clubs vidéo sur les murs nouveautés.
Il y en a. C'est depuis 84 qu'ils en font. Ils en font encore jusqu'en 2018. C'est insane, en tout cas. Fait que je suis rendu là, moi, parce que sinon, là, je regarde des affaires vraiment bizarres, là, le soir, là. Je sais que dans mes DVD, je suis comme, voyons, pourquoi j'ai écouté ça? Pourquoi j'ai acheté ça à la pharmacie dans un rack à 5$? Puis là, je mets ça dans mon lecteur, puis je suis comme, voyons, pourquoi je regarde ça? Pourquoi je regarde pas quelque chose qui serait important, genre du Romer?
Mais moi, Rémi, j'ai un pop quiz pour vous autres. Savez-vous combien de films de The Land Before Time, tu sais, petit pied?
Ah oui, il y en a beaucoup,
ah,
ça.
Savez-vous
combien
il y en a? Je pense que c'est 12, hein?
Parce que moi, je veux faire un shout-out à ma cousine Gabrielle, qui était la plus grande fan des Petits Pieds.
Non, mais les deux, trois premiers, I guess.
Je pense que c'est 12, c'est un enfant qui n'a pas de bon sens. Là.
Fait que je te dirais qu'il y en a, doit en avoir genre 15.
Ouais, je pense qu'on est rendu à 17 ou quelque chose comme ça. Là. C'est assez intense. Là.
Toi, Rémi?
Moi, j'étais à 12.
Non, ils sont 14, ouais, quand okay. Même. Calmez-vous le petit pied, là. Mais il y a quand même 14 films de Petit Pied le dinosaure. En tout cas, je voulais juste
parenthèse,
ce fun fact.
T'es parti après Children of the Corn, Petit Pied le dinosaure.
Ouais, tout va bien.
Nice segue.
On gratte le fond du baril. mais moi, je voulais qu'on parle un peu rapidement, Pascal, parce que t'as soulevé une question intéressante, je trouvais, sur Facebook.
Ah oui!
Et t'as eu vraiment beaucoup, beaucoup de réponses. Puis c'est vrai que c'est...
Attendez. Hey, yo! Genre, je pars. OK, j'ai écrit ça, là, innocemment, là, yesterday. At 5:11 p.m. J'écris ça innocemment. J'écris c'est quoi le film là, qui a le plus mal vieilli. Là, genre, je réponds avec mes deux, trois premiers interlocuteurs, tu sais, ben chill. Je m'en vais souper, j'écoute comme trois films, fait que j'ai pas checké ça du tout de la soirée.
Je m'en vais souper, j'écoute trois films.
C'est soirée. Crise de souper,
soirée ordinaire. Puis là. Là, tu sais, je me couche comme quelqu'un de normal quand il est rendu tard.
Là, comme quelqu'un de normal.
Là, je vois ça, genre, 180 commentaires, là. Genre,
hey, d'autres, il y a deux likes dessus. Mais deux likes, 190 commentaires.
Ouais. Pour vrai, Pascal, là, moi, j'ai vu ton statut 40 minutes après que tu l'aies posté. T'étais déjà rendu à 55. Même moi, j'ai pas compris.
Pas bon, on est viral, les amis. Mais en même temps, c'est que ça a dû, je sais pas, ça a dû mettre le doigt sur le piton. Parce qu'en fait, c'est qu'il y a deux façons de voir ça. Puis il y a la façon plus thématique, puis là, évidemment, tu sais, il y a des films qui sont de leur époque de par leur thématique, puis notamment, tu sais, la misogynie revient rapidement dans la conversation. Puis il y a aussi, sinon, tu sais, c'est quoi qui a mal vieilli? Ben souvent, tu sais, des films qui sont lourds sur des VFX, par exemple, qui vont être lourds sur... tu sais, ou qui sont vraiment de leur époque, là, puis tu sais que c'est... Ouais, bon. Fait qu'il y a plusieurs façons d'aborder cette question-là. Puis c'est parce que moi, en fait, j'ai pensé à ça parce que j'ai réorganisé mes listes. Puis tu sais, moi, je vous l'ai dit, les gars, dans notre genre de messenger, là, tu sais, des fois, quand on écoute des films, on s'écrit entre nous autres, puis j'ai réécouté Black Swan, là, puis j'ai fait un 180 degrés brutal sur ce film-là, là. En 2010, j'avais vu Black Swan, que, tu sais, puis Aronofsky... Je veux dire, quand t'es en 2010, puis que t'as début vingtaine, puis que t'es un cinéphile crinqué, il me semble que c'est un peu un gourou, là. Tu sais, c'est un peu un genre de cinéaste que t'attends tout. Puis il avait fait The Wrestler 2 ans avant, qui est quand même un de ses meilleurs films. Puis The Wrestler, je l'ai pas revisité dans les dernières années, mais quand même, tu sais, je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau de revisiter un film comme The Wrestler. Puis j'ai revu Black Swan, parce que j'étais pas sûr. C'est en mettant mes listes sur Letterboxd, en les updatant. Quand j'ai vu le poster de Natalie Portman sur le poster de... Tu sais, la face de Natalie Portman sur le poster de Black Swan, j'ai fait « C'est-tu encore bon ce soir-là? » Tu sais, on dirait que je me rappelais des sensations que ça m'avait fait vivre puis j'étais plus sûr, tu sais. Puis j'ai revisité, mais en lui donnant une chance quand même. Tu sais, je voulais juste savoir où est-ce qu'il s'en tenait, puis il n'y a rien qui marchait, là. Genre, les dialogues me faisaient cringer. Genre, j'ai trouvé le regard d'Aronofsky sur Natalie Portman carrément sadique. Tu sais, zéro zeitgeist, le gars, là. Il est vraiment plus comme de son temps, je trouvais, là, dans comment il construisait son personnage, la femme, en l'occurrence, la ballerine. Comment que, je veux dire, elle était victimisée d'une façon tellement misérabiliste de A à Z, je veux dire... Puis oui, c'est compétent. Il y a des compétences techniques. Aronofsky, on ne pourrait jamais y enlever. Il est capable de faire un film. C'est un grand metteur en scène. Je pense encore, même en l'ayant revisité, que c'est peut-être le meilleur film qui a été fait avec ce scénario de marde-là. Parce que c'est un scénario de marde.
Puis Charlotte aussi, c'est Mathieu Libatic, le DOP, qui avait fait The Wrestler aussi. Là.
Oui, très bon DOP.
Là. Il a fait aussi Star is Born, notamment. Puis,
Non, il y a de l'énergie. Non. Au niveau formel, j'ai été mal à l'aise. T'sais, j'ai vraiment pas... J'ai vraiment questionné le kid de 21 ans qui était bandé sur ce film-là. Là. J'ai fait, man... C'est comme tu bandais pas ces bonnes affaires là. Puis,
en fait, moi j'aimerais
Attention à ton choix de mots, Pascal, c'est un peu ouais. délicat.
J'aimerais non, ça mais... parce que moi, ce qui m'a fait très rire, j'ai vu ça, puis j'ai aussi vu l'intervention de Mario, parce qu'on se rappelle que notre collègue Mario, il est dans son top de la décennie, hein. Donc, j'aimerais ça entendre. Non, mais, suite à
il
ça.
A le droit. Mon but, c'est pas de shamer personne. Absolument pas. Absolument pas. Mais c'est. En tout cas, c'est personnel aussi, hein.
Oui, non, mais c'est pas ça que je disais, là, mais c'est plus. J'aimerais ça entendre sa version de son point de vue.
Absolument. On peut pas parler pour lui. Mais non, puis je veux dire, tu sais, puis il y a des gens qui aiment ce film-là. Là. Puis c'est ça aussi, en fait, tu sais, je veux dire, je pense que quand on dit qu'est-ce qui a mal vieilli, c'est que je pense qu'il fallait que le film ait déjà un. Comment dire? Qu'à un moment précis, il ait fait un impact quelconque, tu sais. Parce que, je veux dire, un mauvais film, quand ça sort, ben, ça reste mauvais plus tard. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, pour moi, dans quelque chose qui est mal vieilli, il fallait que ça soit déjà hot.
Ben, ça dépend. Il y a quand même des films mauvais ou médiocres qui deviennent quasiment une capsule temporelle aussi. Tu sais.
On a parlé de Southland Tales, le dernier épisode. Hein?
Ouais, mais j'irais même plus loin que ça. Tu sais, vraiment, les films de gros bras, là, tu sais, les Stallones et compagnie, là, même les plus mauvais de cette gang-là, tu sais, il me semble que de temps en temps, quand il y en a que je réécoute, j'ai une nostalgie pour ça. Tu sais, l'époque où on faisait quand même... Ben, tantôt, Rémi parlait de Christine, puis des effets spéciaux, tu sais... des vrais effets, tu sais, avec du matériel, puis juste ça, ça apporte un petit quelque chose, tu sais, à ces films d'une autre époque.
C'est
donc,
clair. Mais je pense que Rémi, t'as vraiment mis le doigt battu parce qu'on le savait tous, mais tu sais, je pense que les comédies de frat boys le début 2000, ça remporte cette palme-là.
American Pie là, avec Jim qui filme en cachette le striptease de Shannon Elizabeth, puis tout le monde check ça à l'école, puis elle quand elle l'apprend trouve ça ben drôle là. C'est comme ouais,
c'est ça, tu sais, puis c'est ça, je pense la fin des années 90, début 2000, il y avait de quoi d'un petit peu désaxé, d'un petit peu comme relax dans l'approche
les scary movies aussi là, tu sais, c'est toute l'espèce d'humour sexuel qui était comme encore accepté là.
Ben en fait Mike Ward en parle souvent sur à sous-écoute, mais tu sais, il dit que il pense souvent que l'humour, c'est comme la forme d'art qui vieillit le moins bien, en fait, l'humour, parce que c'est souvent comme ça vit tellement dans une époque précise, puis quand c'est sorti du contexte, c'est difficile à faire passer. Tu sais, les seuls genres d'humour qui sont plus faciles,
surtout
c'est
l'humour
peut-être...
edgy. En fait, surtout l'humour edgy.
C'est ça que j'allais dire, c'est mettons le slapstick va mieux vieillir parce que c'est des gags qui sont universels, mais quand tu parles à des trucs, soit edgy ou soit des blagues sur une époque, mettons, je sors un film l'année prochaine puis je fais des jokes de COVID, ben probablement que dans 20 ans,
ouais,
les jokes de COVID seront plus tant drôles, là, tu sais.
Ouais,
je pense pas qu'ils vont être drôles l'année prochaine non plus. mais tu sais, je pense que tout ce qui est vraiment des réactions plus primitives et instantanées, les réactions physiques et... que ce soit le rire pour la comédie ou la peur ou l'effroi pour l'horreur, tu sais. Puis tu parlais avec Black Swan, tu sais. C'est pas tout à fait fair de comparer, mettons, là, tu l'écoutais peut-être sur ton laptop en plein jour, Black Swan, à un certain niveau sonore, alors que peut-être qu'à l'époque, tu l'as écouté avec une audience dans une salle.
Ouais.
Tu sais, puis il y a des films comme ça. Mettons L'Exorciste, là. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs films d'horreur de tous les temps, tu sais. Mais c'est sûr que moi, je ne l'ai pas vécu à l'époque de la sortie. Puis ça me fait capoter de voir les reportages, des gens qui s'évanouissent, qui gueulent, qui vomissent. T'sais, moi, je le respecte en tant que... Tu sais, je respecte le craft, tout ça. Puis, mais je suis pas capable d'avoir le même niveau d'effroi que les gens de l'époque, tu sais, parce que ça évolue vite, puis les effets n'ont plus nécessairement le même impact. Mais tu sais, L'Exorciste à l'époque, là, vous parlez de ça à vos parents, puis c'est comme, c'était vraiment le film là, défendu qui venait de tout changer soudainement. Là.
Non, absolument. Mais donc, fait qu'effectivement, quand c'est plus un peu au niveau de la forme, je suis d'accord qu'il y a quelque chose, tu sais, qu'on s'habitue, on se blase de certains. Même mettons un film comme Requiem for a Dream, c'était comme la chose la plus intense, c'était comme un peu ça son brand au début des années 2000. C'était, il n'y a pas plus intense que Requiem for a Dream, puis tu le réécoutes aujourd'hui, c'est encore très intense, je dis rien contre ça, c'est juste que tu peux plus juste lui donner ça pour tout lui pardonner, par exemple. Je l'ai pas revu, hein, j'ai pas d'opinion sur est-ce que ça tient encore la route. Je pense que oui, mais
t'as aussi les fameux films. Oui. Puis tu sais, les fameux films qui sont trop populaires puis qui ont trop d'influence, là, comme tu sais, Pulp Fiction, OK, pour moi, c'est un des grands films américains, tu sais, puis sa place est incontestable. Mais il y a tellement. Il y a tellement une influence que c'est un peu. Ouais. À un moment donné, tu tannes de parler de Pulp Fiction puis de revisiter ce film-là. Puis tu sais, puis j'imagine même pas la génération actuelle, mettons, qui ont grandi puis se sont fait dire oui, Pulp Fiction, ça. Donc. Puis Requiem for a Dream, c'est un de ces films-là qui a eu énormément d'influence, notamment son système de ce qu'il appelle le montage hip-hop, ou encore son système de steadicam, là, que c'est genre, il attache la caméra qui pointe vers l'acteur à plusieurs reprises. T'sais, ça a tellement été repris que c'est un effet maintenant que je trouve gossant.
Ouais.
Mais faut pas en vouloir Requiem for a Dream. C'est un peu unfair.
Il y a des esthètes qui vivent avec certaines époques aussi, tu sais, même juste au niveau de la colo, il y a le procédé du bleach bypass qui était full populaire fin 90, début 2000, là, où tous les contrastes sont boostés, les couleurs sont un peu fades. Ça, c'était comme populaire. Puis tous les films avaient cette colorisation-là. Puis à l'époque, c'était vraiment cool. Puis là, tu regardes ça aujourd'hui, puis tu fais, OK, le film vient exactement de cette année-là. Tu peux comme le placer dans un... Puis c'est un peu dérangeant, un peu pour l'œil aujourd'hui.
Ben, ouais. Ou même Amélie Poulain, tu sais, c'était la première colorisation, ou dans les premières colorisations, tu sais, numériques, puis tu vois comment ils ont comme crinqué ça, mais d'une façon comme un étudiant en cinéma ferait aujourd'hui, là, tu sais, ou quelqu'un qui, je sais pas, qui veut juste comme jouer avec les notes de couleur, on dirait.
Je vais mettre du vert.
Ben du jaune, ben du vert, ben saturé, ouais, go, tu sais, comme... Il n'y a comme pas de modération, puis c'est parce que c'était une colorisation numérique de 2001 avec les outils de 2001. Puis c'est correct, tu sais. Mais
reste qu'Amélie Poulain, je trouve que... Ben, bon, encore, moi, je suis une très grande fan d'Amélie Poulain, puis je pense que j'ai un amour infini pour ce film. Mais malgré ça, sa forme qui a peut-être qui a mal vieilli, c'est quand même un récit, tu sais, qui pour moi, est intemporel.
Oui.
Et...
Ah oui. Ben, c'est ça. Fait qu'on revient un peu à la question, est-ce que quand on parle de mal vieillir, c'est vraiment plus au niveau des thèmes ou est-ce que c'est plus au niveau, tu sais, comme de l'enrobage physique? Parce que, tu sais, de l'enrobage physique, il n'y a rien de pire ou presque, tu sais, puis ça me fait capoter que ça n'avait pas sorti dans les 190 commentaires, mais genre La Menace fantôme ou L'Attaque des clones, ces films-là, ils vieillissent mal.
Non, mais prends pas Star Wars comme exemple. C'est quand même le state of the art. Là. Prends n'importe quoi d'autre. Prends. C'est quoi là? C'est le Roi Scorpion là, avec The Rock là, en CGI.
Le Roi Scorpion.
Ouais.
Ouais, épisode 1, là, quand tu vois les armées qui se battent, là, puis tous les petits robots, ils bougent pareil, là, ça a vraiment mal vieilli. Là. C'est vraiment pas beau aujourd'hui, même aujourd'hui.
Mm-hmm.
Moi, je suis pas d'accord.
Moi, je trouve que prendre n'importe quel autre film de 99 à grand déploiement, là, à grands effets spéciaux, puis Star Wars, ne serait-ce que parce qu'il s'inspire beaucoup de la mise en scène de Kurosawa aussi, mais il y a vraiment quelque chose de... Oui, il abuse du CGI à outrance dans les préquels, là, mais c'est vraiment pas aussi pire que d'autres exemples, là, je trouve.
Genre espion en herbe avec les bonhommes en tête de pouce.
Oh my God!
Ça, j'oublierai jamais ces bonhommes en tête de pouce-là. C'est tellement mal fait.
Hey, moi, j'ai vu le duo Secret Garden et A Little Princess. Vous douterez que c'est peut-être pas moi qui ai fait la sélection de la soirée.
Ouais, c'est correct.
Mais oui, non, bon. Mais j'étais content de les voir, de les avoir vus. Puis entre autres, dans Little Princess, il y a comme un monde féerique là, quand elle raconte ses histoires. Puis il y a comme un dragon qui apparaît. Là. Puis c'était les débuts du CGI. Pis il est tellement laid, là. C'est comme les graphiques, tu sais, de la série Sinbad le marin à Canal Famille.
Oui.
C'était vraiment pareil, là. C'était genre un gros dragon avec aucune texture, qui est juste un blob de 3D qui... C'est vraiment épouvantable. En tout cas, c'était bien bon, par exemple, mais...
C'est bon, ça.
Les quelques effets spéciaux numériques dans Dune aussi de David Lynch, ouais. C'était comme très primitif.
Hey, moi, j'en ai un qui a mal vieilli, que j'ai vu aussi récemment. Ma copine a dit, je vais y mettre ça sur le dos là, quand même, là. Mais elle a dit, j'aimerais ça réécouter Spanglish. J'ai vu ça quand j'étais jeune, puis il me semble que j'aimerais ça le revoir. Puis là, on a écouté ça. Puis à moitié du film, c'est parce que Spanglish comme une bonne qui arrive dans une famille blanche américaine, là, puis elle parle pas anglais, puis elle essaie de s'adapter à la famille. Puis au milieu du film, Adam Sandler commence à avoir un crush dessus, là, puis il accrose un peu chaud d'ail, là, il est comme drunk, puis il se force un peu sur elle, puis c'est censé être bien cute. C'est tellement cringe, là, tout ce qui est romance dans ce film-là, il a juste l'air d'un esti de creep tout le long. C'était vraiment pas écoutable, pis ça dure 2 heures, sti.
Mais vois-tu, je regarde la date, 2004. Moi, je pense vraiment qu'on l'a échappé, là. Entre 98 puis 2004, 2005.
Ouais,
là,
ouais, ouais.
On l'a échappé, là, je trouve, là. Je pense que la culturellement, là, c'était comme pas une bonne époque.
Hey, man.
Un film d'Adam Sandler qui vieillit mal.
Puis ben, c'est ça. Ce que j'ai dit dans ma critique, c'est genre, c'est une des affaires les moins pires, c'est Adam Sandler dans le film. Parce que c'est tout le reste qui. Ça va pas, là. Puis tu sais, je checkais le budget, c'est comme un film à 80 millions, là. C'est comme, il y a du monde qui s'en sont mis plein les poches là-dedans. Adam Sandler.
Non, mais c'est ça. Ben écoute, plusieurs des réponses variées pour une question complexe, là. Je sais pas. Toi, Delphine, avais-tu quelque chose à ajouter?
Oui, ben moi, j'ai mis Nuit de noces.
Oui, vraiment.
Ah, oui.
Ouais, parce que s'il y a un film que... Oui, j'ai revu ça il y a pas si longtemps à la télé, puis je sais même pas pourquoi je l'ai réécouté. Écoute, c'était tellement pourri. Puis ben ça rentre dans la lignée d'humour qui n'est plus qui n'est plus de notre époque.
De son temps, là.
Ben, ouais, c'est ça. Puis la famille dysfonctionnelle, puis les dialogues sont pourris, là.
Une grande partie des cinémas, des films, des comédies populaires, le grand public québécoise, il y en a beaucoup. Tu sais, toutes les Boys, un peu, c'est aussi ça. Les Boys, quand même, il y a les personnages auxquels on s'attache, mais il y a quand même un gros côté que c'est très mononcle.
Il y en a qui parlent de J'en suis. Là, j'ai vu cette mention-là qui entrecoupe peut-être un peu Nuit de noces, là, mais J'en suis avec Pat Huard puis c'est Roy Dupuis là, qui était là-dedans. Ouais. C'est ça? Ils font semblant qu'ils sont gays, puis c'est super drôle.
C'est Roy Dupuis, là. Ça pourrait pas être plus Roy Dupuis.
Moi, l'autre exemple que j'avais donné, c'était Ace Ventura 1. La finale du film, spoiler, guys, si vous avez pas vu Ace Ventura 1, mais la méchante, c'est une trans. Puis quand ils se rendent compte que c'est une trans, ils voient qu'elle a un pénis, puis tout le monde se met à vomir. Puis Ace Ventura, il l'a embrassé, puis il se met à genre... cracher dans une toilette puis à se mettre un siphon d'en face pour se sortir le méchant parce qu'il a embrassé un dude.
Ah, oh, mon Dieu.
C'est épouvantable.
Ouais, j'avoue que c'est...
C'est épouvantable.
Ouais.
On finit-tu là-dessus, là, ou... Il me semble que c'est downer.
Non, mais ben, écoutez, merci pour toutes ces réponses. sujet fascinant. Quelques petites infos, peut-être, que je voulais vous dire en début d'épisode, mais là, on a chiré beaucoup. Pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne le savent pas, il y a le film, le festival We Are One qui va être lancé cette année.
Ah oui, bon.
Qui est un consortium de plusieurs festivals là, qui se mettent ensemble pour faire un truc sur YouTube, en fait, qui va être gratuit du 29 mai au 7 juin. Des films de Cannes, Berlin, Toronto. Il y a une vingtaine de festivals majeurs là, qui s'allient pour ça. Et il sera possible pour les gens de faire des dons. Et en fait, tous les profits de cette aventure seront remis à des causes de charité, puis de gens qui s'occupent de la santé, puis de la recherche et tout ça. Donc, vraiment une bonne chose. Puis, tu sais, 2020, je pense que c'est ça, c'est un laboratoire là, au niveau cinéma. Nous aussi, moi personnellement, je vais couvrir aussi le festival Oberhausen, qui est un des plus vieux festivals de court-métrage au monde. J'y avais été en personne en 2018 et j'étais censé y aller cette année et j'ai toujours un billet d'avion qui m'a pas été remboursé, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais il aura lieu en ligne, le festival, donc c'est environ plus de 300 courts-métrages qu'on peut voir sur le site pour une passe virtuelle de 10$.
Okay.
Alors, et Oberhausen, c'est vraiment en sélection très expérimentale, là, je vous avertis tout de suite. Là. Mais si ça vous intéresse, ça vous parle, je vous le recommande chaudement. Là, c'est vraiment un festival qui est très, très renommé. Fantasia a annoncé aussi qu'il faisait un festival en ligne cette année, une édition en ligne du 20 août au 2 septembre, qui sera donc... Il y a un système quand même de billets, donc il y a des limites des places disponibles pour les films qui seront présentés.
Ouais, puis ça va être dans des plages horaires prédéterminées, donc tu peux pas acheter ton film pendant une semaine puis l'écouter quand tu veux. C'est comme de la location, mais il faut que tu le regardes à un moment déterminé, puis il y a des places limitées. Donc c'est un peu comme l'expérience d'être en salle, mais pas d'écran géant, là. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que tu peux splitter le billet avec ta gang. Fait que tu sais, rendu là, d'après moi, les gens vont pouvoir se voir un petit peu plus. On s'attend à ce que les gens se fassent des parties dans les salons, puis que les gens écoutent les films en simultané.
Mm-hmm.
Puis au niveau des courts-métrages québécois, tu sais, je peux l'annoncer, mais ce sera des lives Facebook, comme la plupart des festivals font. J'ai comme pas vraiment le choix pour la section québécoise de faire ça. Malheureusement, je pense pas que je pourrais, avec toute la l'offre qu'il y a sur Internet, je pourrais pas me mettre à charger des séances de courts-métrages en ligne. Donc, ça va être des programmes à travers le festival. Il devrait en avoir 4 si la tendance se maintient. Donc, 4 programmes sur toute la durée du festival. Sur Facebook, gratuitement, non géobloqué, vous allez pouvoir tout voir ça où que vous soyez.
Oh ouais,
nice. Donc là, c'est bel et bien, c'est ça, les courts-métrages québécois de Fantasia qui seront gratuits sur Facebook.
Exact.
Pour le reste, il faudra payer des billets et ce sera sur une autre plateforme. Et d'ailleurs, il y aura aussi des intros là, des gens avec cette plateforme-là. Donc ça va être vraiment comme intro des programmateurs et tout, peut-être Q&A avec l'invité enregistré à distance, des trucs comme ça, ainsi que le film. Donc, ça, c'est très, très cool, du 20 août au 2 septembre. Et par contre, on n'a toujours pas de nouvelles du FFM. sinon, toi, Pascal, tu t'es plongé dans l'horreur folklorique dans les derniers jours.
Oui, ben là, le temps file, fait que je vais faire zoom-zoom par-dessus ça. Mais en fait, c'est parce que je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai eu du temps, fait que je regarde un nombre indécent de films. J'étais à peu près à 3 par jour. C'est que c'est ça. Fait que je me cherche j'aime ça un peu explorer par courant. Parce que, tu sais, comme quand j'étais plus jeune, j'explorais par réalisateur. Sauf que là, la plupart des réalisateurs, c'est assez rare que je tombe sur un réal, tu sais, qui a un body of work substantiel que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, puis que je capote, tu sais, que je connaissais vraiment pas, puis que je décide de plonger à la verticale dans ces cinéastes-là. Mais il y a certains courants qui me font un peu le même feeling que ça.
Mais là, dans ce cas-ci, c'est quasiment c'est plus une thématique qu'un courant.
Oui, oui, c'est ça. Puis c'est les... parce que moi, j'avais beaucoup aimé Midsommar, je sais que toi, Paul, aussi. Il y a beaucoup de gens comme qui avaient aimé Midsommar. Puis pour moi, je lui donnais comme des points ajoutés par un peu son originalité. Tu sais, moi, l'horreur en plein jour, tu sais, qui mise pas sur ce qu'on voit pas, mais plutôt, tu sais, qui est en deep focus, en plein jour. Comme je disais, tu sais, il y a quelque chose qui m'avait vraiment stimulé l'imaginaire. Je me suis dit, c'est sûr, ça sort pas de nulle part. Je connaissais certains films similaires, mais je connaissais pas le courant, tu sais, le ce qu'on appelle en anglais le folk horror. Puis ça, c'est sûr, fait que ça m'a comme intéressé, mais c'est surtout que j'ai enfin regardé The Wicker Man, la version de 73 de Robin Hardy. que j'avais jamais vu, puis je vais vous le dire, Chris, pourquoi je l'avais jamais vu ce film-là. C'est parce que j'ai jamais vu non plus le remake, mais j'ai souvent regardé le worst of, tu sais, Nicolas Cage avec les abeilles, puis on voit un peu tout là, dans le fameux montage de 15 minutes sur YouTube, là, avec toutes les scènes qui n'ont pas de bon sens raboutées. Fait que j'avais comme l'impression que j'avais vu le film, tu sais, que je connaissais l'histoire, là, le policier qui débarquait, puis là, les mensonges d'une petite communauté, puis la manée, c'est plus deep que ça, puis il y a quelque chose qui se révèle, bon, blabla. Si bien que, genre, puis en plus, le remake est tellement abyssalement mauvais, encore là, je l'ai pas vu, j'ai juste vu le worst of, là. Mais j'imagine que quand tu le vois au complet, c'est encore pire que les meilleurs des pires moments. En tout cas, longue histoire courte, j'étais pas attiré par le remake plus que ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, je vais prendre le taureau par les cornes, je vais l'écouter. Puis j'ai vraiment pogné de quoi, j'ai trouvé ça super bon. Puis tu sais, quand on dit folk horror, il est aussi vraiment bien indexé au courant folk en musique, tu sais, du milieu des années 60 au milieu des années 70. C'était vraiment un âge d'or, tu sais, pour la musique folk aux États-Unis et ailleurs. Puis il y avait vraiment des penchants comme ça qui se mélangeaient à la musique psychédélique. Tu sais, il y a des artistes folk qui faisaient de la musique progressive, folk, des trucs que tu as l'air d'être dans un champ avec des païennes tout nues qui sautent par... Non, mais tu sais, il y a de la musique de cette époque-là qui évoquait l'imagerie que j'avais peu vue finalement au cinéma.
Ouais. Et même des événements, tu sais, je veux dire, de Woodstock à Midsommar, tu sais, la marche n'est pas si grande que ça.
Ben, tu sais, effectivement. Puis je trouvais que Wicker Man était comme un peu... Tu sais, quand tu pognes un film que tu vois enfin un genre de classique, puis que c'était vraiment la pièce d'un puzzle qui manquait, genre, on dirait, à ta compréhension globale de quelque chose de plus large, ça m'a vraiment fait du bien de tomber sur Wicker Man, puis de faire « Ah! C'est ce film-là! » Puis, c'est pas un film parfait, mais ce que je trouve qu'il est particulièrement bon dans Wicker Man, c'est... On n'est pas juste en train de démoniser les genres de païens libertins en perdition, là, tu sais. Parce que le film est crissement intelligent. Lui qui joue le sergent qui débarque là, dans une petite île, je pense que c'est en Écosse, ben c'est que finalement, lui, il est comme, en étant hyper coincé du cul par le christianisme, il est pas mieux non plus. Tu sais, je trouve que le film est hyper intelligent parce que finalement, il critique deux sortes de dogmes et deux sortes de dévots. Puis c'est comme ces deux mondes hyper diamétralement opposés qui se clash, tu sais. Puis c'est le clash qui crée l'animosité, tu sais. Parce qu'il y a rien de noir, il y a rien de blanc, mais en même temps, t'sais, quand tu prends des radicaux de part et d'autre, ça crée ce genre d'histoire-là. Non, moi, ça m'a vraiment captivé mon imaginaire. Puis ça, ben, écoute, je passais pas à travers tous les films parce que là, le temps file, mais j'ai trouvé d'autres films pionniers là, de ce courant-là. Il y a un film qui s'appelle The Witchfinder General qui est intéressant avec Vincent Price. Blood on Satan's Claw, là, t'sais, des films de même. Là. En tout cas, bref, j'ai comme viré fou dans la fin des années 60, début des années 70.
Hey, une curiosité, là. Je vais t'en pitcher un, c'est une curiosité, c'est pas excellent, là. Mais c'est le film Incubus avec William Shatner, qui est le seul film ever qui a été tourné en espéranto. Tu sais, le langage, langage mondial, là. Mais c'est un film en noir et blanc qui a disparu longtemps, puis la seule copie qui a été retrouvée, c'était une copie avec des sous-titres français. Fait que souvent, les copies que tu peux trouver en DVD, il y a comme des barres noires sur les sous-titres français, puis avec des sous-titres en anglais par-dessus. Puis c'est ça, c'est tout en espéranto, fait que ça met un mood, là, crissement bizarre dans le film. Il y a comme un démon en chèvre, puis des affaires weird, là.
C'est-tu le film de 81? Parce que là, je vois que c'est John Cassavetes qui joue le rôle principal de ça. C'est ça?
Non, c'est avec William Shatner et son acting complètement... comme over the top, là. C'est 1966.
Ah, oh, mon Dieu.
Fait que même que je pense que c'est pré-Star Trek, là, c'est très, très vieux comme film. Fait que je te dis juste, au pire, va checker des scènes sur YouTube, mais il y a vraiment un mood particulier dans ce film-là, juste à cause du langage utilisé.
Vendu, adjugé.
Ça me semble que c'est un move à la Nicolas Cage. C'est vraiment un gros power move, là, de dire « Mon prochain film va être en esperanto. » <là, t'sais. rire>
Faut que tu y crois, là. Hey, parlant de Nicolas Cage, on se dit une petite dernière nouvelle, mais il va jouer Joe Exotic dans la série Tiger King. Bon, ça c'est dit, c'est bon.
Avec l'équipe de American Vandal, qui était une très bonne parodie. Hein. Je sais pas si vous avez vu ça, mais très très bien. Donc, super. Écoutez, ça donne plein de suggestions de films à voir pour que ce confinement qui continue. On va se laisser sur la bande-annonce d'un film que je voulais parler un peu, mais qui est très très bon, Bad Education de Corey Finlay. Pour ceux qui ne connaissent pas Corey Finlay, c'est son deuxième film après le très cool Thoroughbreds.
C'était bon ce film-là, c'est vraiment... Ah oui, c'est ça.
Ouais. Donc, Bad Education, en fait, c'est sur une histoire vraie, sur un scandale, en fait, de détournement de fonds publics par un directeur d'école, joué par Hugh Jackman. C'est un film, donc, HBO, qui est disponible sur Crave au Canada. Et c'est un peu un film à la Spotlight, là, ou All the President's Men. Tu sais, une espèce de film, genre, qui montre que le journalisme, c'est cool puis c'est important. Là.
Hey, Dark Waters de Todd Haynes, excuse, hey, vraiment rapidement, shout out à Dark Waters, je l'ai vu aussi, puis entre les deux dernières semaines, puis c'est vraiment bien, puis c'est un peu un genre de Spotlight-ish, mais avec Mark Ruffalo et tout, mais meilleur, en fait, j'ai vraiment trouvé ça. Je vous lance en balle courbe, là, une petite recommandation. Le dernier Todd Haynes, là, il vaut quand même vraiment la peine.
Ok. Excuse-moi. Ben oui, puis c'est un genre que j'aime full en plus, genre des, je sais pas, quand on monte un peu des gens qui travaillent fort là, puis qui, tu sais, ils passent des heures à faire la recherche puis ça paye off à la fin là. J'aime tellement
Dark,
ça.
Dark Waters, c'est des décennies là, c'est sur des décennies là, c'est comme c'est Mark Ruffalo, il est acharné sur son cas là, c'est vraiment tu pourrais pas être plus pile dans ton profil. Là.
Ou tu sais, dans Wolf of Wall Street, là, l'espèce de personnage là, de... C'est quoi son nom? Kyle Chandler, là, qui est sur le bateau, là, puis il refuse les pots de vin de Leonardo DiCaprio. T'sais. Moi, j'ai toujours aimé ce gars-là. C'est ce personnage-là, de la personne honnête là, qui va comme y arriver malgré tout, en tout cas. Bref, petite parenthèse. Tout le monde va être Leonardo. Moi, je vais être genre le gars sur le bateau qui refuse l'argent. Alors, voilà. Donc, on va écouter ça. C'était notre point de vue. Merci beaucoup, Delphine, d'avoir été des nôtres.
Ben, ça m'a fait super plaisir.
Yeah. Mon nom est Paul Landreau. J'étais avec mes collègues.
Et Louis Fréchette.
Et Pascal Plante.
Good morning. I wanted to make a difference. Look, we did. I got us all the way to number 4. And I will get us to number 1.
These are the best early decision numbers that we've ever seen.
They want me to write an article about the new budget.
Oh, okay. Soundbite. Nice.
You want to write this down? Or are you...
I'm taping.
Oh. Okay.
It's just a puff piece.
It's only a puff piece if you let it be a puff piece.
Come.
What?
Quick.
This is a very real crime here, a theft of taxpayer money.
The sum total is $250,000.
What?
Jeez,
$250,000?
Everything's fine.
You can't jump the gun here, not when there's this much at stake. We need to know what we're dealing with.
Frank.
After everything we've worked for.
Frank.
To get this far.
Frank.
You have nothing to worry about. Frank's gonna fix this.
This kind of behavior, it's cruel. It's sociopathic.
Sociopathic?
I'm ashamed of my actions. I'm ashamed of myself. There's no excuse for it.
Well, the sociopathy.
Yeah, right. Then.
Yeah. If the scandal gets out, we will lose everything. Some people, they'll do the most horrible things.